Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft, une association UTCN qui s'est donnée pour mission de sensibiliser et former les citoyens et citoyennes aux enjeux du numérique, qui héberge des services web respectueux de la vie privée et qui promeut une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Pour l'émission d'aujourd'hui, je suis avec Stéphane. Salut Stéphane.
Bonjour Quentin.
Bon alors, on rappelle que toi, t'es prof à l'UTC et tu vas nous raconter une histoire pas banale qui t'est arrivée ce semestre.
Ouais, c'est ça, une histoire de prof. Alors pour rappel, hein, les auditeurs assidus de Graphite le savent, mais on anime avec Audrey et avec toi un cours qui s'appelle Écrire sur le web, qui a comme nom de code UTC1WE01. Et donc ce cours, eh bien, on l'anime tous les semestres, et donc il s'est terminé le 12 janvier de cette année. Et le cours se termine par un examen. Un examen, on appelle ça un final dans le jargon UTC, donc ça dure 2 heures. Et donc il y a une quarantaine d'étudiantes et étudiants qui ont passé, comme tous les semestres, cet examen. Alors peut-être juste aussi pour donner un peu le contexte, les gens qui écoutent Graphite connaissent peut-être l'UTC, mais au cas où, je rappelle rapidement, hein, l'UTC c'est donc une école d'ingénieurs polytechniques, c'est-à-dire qui concerne voilà la mécanique, l'informatique, la biologie, la chimie ou les procédés, l'urbanisme, et qui accueille des étudiants qui vont de Bac plus 0, sortie de lycée, jusqu'à Bac plus 5. Notre cours Quentin WE1, il fait partie de la catégorie technologie et sciences de l'homme, et donc sa particularité, eh bien, c'est de regrouper des étudiants de toutes les spécialités et de tous les niveaux. Je vais pas trop rentrer dans le détail de ce dont on parle à l'intérieur de ce cours, c'est pas très important. On va essayer d'arriver au fait, mais en gros, hein, les étudiants et les étudiantes de ce cours, eh bien, ils apprennent à publier sur le web et également à parler du web. Donc, on fait un peu d'histoire du web, on fait un peu de philo de la technique, on aborde des questions juridiques, etc. Et eh bien, on essaye de donner aux étudiants comme compétence, par exemple, d'écrire des articles qui vont concerner du sujet du web et de les publier sur le web. Alors je vous raconte cette histoire, on avance un petit peu, hein. comme je vous l'ai dit, une des modalités que l'on a pour évaluer les étudiants, eh bien, c'est de leur faire passer des examens qui sont en quelque sorte des simulations de cet exercice. Donc on leur pose des questions et on leur demande de rédiger un petit article ou un petit texte, eh bien, à propos d'un sujet qu'ils ne connaissent pas a priori, qu'on introduit pendant l'examen. Pendant ces examens, comme on essaye de conserver à peu près le contexte, un contexte normal pour quelqu'un qui écrirait sur le web, eh bien, les étudiants ont le droit à des ordinateurs. Ils ont le droit de faire évidemment des recherches sur le web, ils ont le droit à Wikipédia, voilà, ils ont le droit à presque tout. La seule contrainte, c'est que comme c'est une évaluation individuelle, ils n'ont pas le droit de communiquer. Donc, ils n'ont pas le droit de communiquer entre eux et ils n'ont pas le droit de se faire aider par des tiers. L'examen se déroule de la façon suivante. Eh bien, en général, on donne un sujet, voilà, un petit texte, souvent d'actualité. Cette année, ça portait sur la question du rachat de Twitter par Elon Musk. On pose quelques questions. Alors, cette longue introduction, parce que, eh bien, il se trouve qu'en fin d'année 2002, Quentin, il s'est passé quelque chose. Alors, on va en reparler un petit peu tout à l'heure.
2022, Stéphane.
J'ai dit quoi ?
2002.
Ah ouais, mince, c'est déjà, tu vois, c'est... Donc, alors, cette fin d'année 2022, c'est-à-dire il y a un mois et demi à peu près, il y a un truc qui est sorti qui s'appelle ChatGPT, donc une intelligence artificielle, un agent conversationnel, donc un logiciel de chat, un logiciel de discussion en ligne. On va en reparler, hein, c'est un peu le sujet en fait de notre émission qu'on a mis un peu de temps à introduire. Est apparu. Et donc moi, je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est que pour être un peu dans l'actualité, je vais produire mon sujet. Je vais poser les questions à ChatGPT. Il va me produire des trucs pas trop mal parce qu'il paraît que ça marche pas mal. Et puis je vais demander à mes étudiants de le critiquer.
C'est une bonne idée, ça. C'est original.
C'est original, hein, c'était une bonne idée. Mais ça n'a pas marché, Quentin. Est-ce que tu sais pourquoi ça n'a pas marché ?
Parce que ses réponses, elles étaient trop nulles.
Parce que ses réponses, elles étaient trop bonnes, Quentin.
Ah merde.
C'est-à-dire que, voilà, sur ce premier test, quand j'ai vu les réponses, j'ai pas regardé en détail, mais je me suis dit, oh là là, on est déjà sur du 12-15 facile sur 20, peut-être même plus. Donc, j'avais pas encore fini mes critères d'évaluation, et donc je me suis dit, ça va pas du tout, parce qu'en fait, les réponses que j'avais, ça classait les résultats au moins dans la première moitié, probablement le premier quart de l'effectif de notre UV. Alors, qu'est-ce qu'on a fait alors? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme tout bon prof qui se respecte, j'ai mis un gros truc en rouge sur le sujet. Il est interdit d'utiliser ChatGPT, je l'ai écrit en gros au tableau, j'ai expliqué aux étudiants qu'ils pouvaient être renvoyés, aller en prison et tout, que c'était super grave s'ils l'utilisaient. Et on a fait l'examen normalement. Je pense vraiment qu'il n'y en a pas qui l'ont utilisé du coup. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est que tu veux que je nous lise ou toi peut-être, je sais pas si tu l'as devant les yeux là, peut-être qu'on peut lire une question et une réponse pour voir
carrément
ce que ça donne, parce que donc évidemment j'ai, une fois que tout a été terminé, j'ai bien fait passer l'examen à ChatGPT. Tu veux nous lire la première question, première réponse?
Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai la première réponse?
Lis la question, j'enchaînerai sur la réponse juste devant les yeux.
Donc, la première question, c'était sur Twitter, en avril 2022, le compte Join Mastodon, associé à la structure qui édite le logiciel Mastodon, a affirmé qu'une média sociale Mastodon ne pouvait pas être achetée et possédée par un millionnaire. Expliquez pourquoi les personnes qui gèrent le compte Twitter de Mastodon affirment cela.
Alors, la réponse de ChatGPT est « Mastodon est un réseau social décentralisé qui utilise le protocole ActivityPub pour permettre aux utilisateurs de créer et de rejoindre des instances » entre parenthèses, des serveurs indépendants, sur lesquels ils peuvent communiquer avec d'autres utilisateurs. Chacune de ces instances est gérée indépendamment et peut avoir des règles et politiques différentes, mais toutes se connectent entre elles pour former un réseau global. En raison de cette structure décentralisée, il n'y a pas de société ou d'individu qui possède, entre guillemets, Mastodon en tant que tel. Le logiciel Mastodon est open source, ce qui signifie qu'il est librement disponible pour que n'importe qui puisse le télécharger, l'utiliser et le modifier. Il n'y a pas non plus de modèle économique qui permette à une personne ou à une entreprise de posséder, à nouveau entre guillemets, Mastodon, financièrement. Les développeurs de Mastodon travaillent sur la base du bénévolat et les serveurs sont financés par les dons. Donc la réponse de ChatGPT ici, ceux qui ont écouté la question ont probablement pas compris initialement cette question, elle est quand même un petit peu précise, et on voit qu'la réponse est tout à fait à propos, c'est-à-dire qu'à la fois elle aborde exactement les bons sujets, les concepts que j'attendais, celui de la décentralisation, celui d'un logiciel libre donc facilement duplicable, la question de la possession du logiciel ou de l'entreprise en lui-même, ici effectivement le fait que ce soit pas possédé, donc j'ai quasiment tous les arguments que je voulais. On en fait une deuxième ou on enchaîne? Qu'est-ce que t'en penses?
Bon, on peut s'en faire une petite deuxième.
Allez, vas-y.
Tu veux laquelle? La question 2?
Par exemple, on n'a qu'à les faire dans l'ordre.
Allez, le réseau social d'Elon Musk ne voit visiblement pas la concurrence de Mastodon d'un très bon œil. Pour mieux la contrer, Twitter a tout simplement décidé de bâillonner le compte officiel Join Mastodon et de bloquer tous les liens renvoyant vers des serveurs Mastodon. Expliquez en quoi cette décision peut être inscrite dans le contexte de la centralisation et redécentralisation du web. Ouais, c'est des questions, c'est un peu des trucs qu'on se pose dans la voie libre, hein, comme genre de questions.
Ouais,
on pourrait faire rédiger nos émissions par ChatGPT, non?
On verra à la fin, mais il est possible que ce soit notre dernière émission. En effet, on voulait pas l'annoncer trop tôt, mais voilà. On va tester les synthétiseurs vocaux. Alors, je te donne la réponse. La fin de la question, c'est une question qui renvoie directement au cours de W1 sur la centralisation et la redécentralisation du web. Donc, réponse de ChatGPT. La centralisation d'Internet se réfère généralement au fait que de nombreux aspects de l'Internet, tels que les médias sociaux, les moteurs de recherche et les services de stockage en nuage, sont dominés par une poignée de grandes entreprises. Ces entreprises ont une grande quantité de données sur leurs utilisateurs et ont un pouvoir considérable sur ce qui est vu et partagé en ligne. La redécentralisation, d'autre part, vise à répartir ce pouvoir entre plusieurs acteurs indépendants pour réduire la dépendance à l'égard de ces entreprises centralisées et pour améliorer la sécurité, la confidentialité et la liberté d'expression des utilisateurs. Mastodon est l'un des exemples de projets qui s'inscrivent dans cette vision de redécentralisation, car il permet aux utilisateurs de créer, de rejoindre des instances autonomes qui peuvent avoir des politiques et des règles différentes et qui se connectent entre elles pour former un réseau global. En censurant Mastodon sur Twitter, cela pourrait être considéré comme une action pour limiter la liberté d'expression et la redécentralisation sur Internet et favoriser la centralisation des médias sociaux.
Bon, déjà, même si on n'y connaît rien, sans présumer de si c'est vrai ou pas, la forme, c'est convaincant, quoi. Tu vois, j'écoute ça à la radio, je me dis, bon, ok... Gonzi, c'est de quoi il parle, quoi, globalement.
Ouais, ouais, c'est convaincant, c'est convaincant. Et puis encore une fois, hein, on va avancer un petit peu. Mais si je prends les critères de ce que j'attends de restitution d'une étudiante ou d'un étudiant sur ce sujet, et ben, en gros, il y a tout, il y a presque tout. Voilà, c'est clair, c'est abordé de façon structurée. Et encore une fois, et c'est peut-être ce qui m'a le plus surpris, c'est que c'est totalement à propos, c'est-à-dire qu'il ne me parle que de ce que j'attends, il n'y a pas des grosses digressions sur d'autres sujets. Soit dit en passant, c'est une erreur que font un nombre important d'étudiants, c'est-à-dire que les étudiants qui abordent les réponses aux questions qu'on pose et qui ne sont pas très au fait du cours, ceux qui sont les moins au fait du cours, et ben en faisant des recherches sur le web, ils tombent un peu sur des trucs voilà, qu'on n'a pas trop à voir, et ils se mettent à faire ce qu'on appelle des hors-sujets. Et bien, donc on va peut-être s'arrêter là pour les exemples, on en fera d'autres si on a envie tout à l'heure, mais les premières observations importantes, eh bien, c'est que rien n'est hors sujet. C'est-à-dire que il y a 5 questions en tout, hein, sur les 5 questions, eh bien, j'ai rien qui est hors sujet. Quasiment tous les éléments que j'attends, c'est-à-dire au moment où je fais ma question, moi, je me fais une petite liste des points liés au cours que j'attends, eh bien, ils sont quasiment tous abordés. Il n'y a aucune erreur significative, je précise pas là, mais dans le protocole, j'ai juste supprimé quelques formules qui effectivement étaient par exemple redondantes ou voilà, mais j'ai fait aucune reformulation en tant que telle, et il n'y a aucune erreur significative de contenu. Et le seul défaut qu'on pourrait relever, c'est que il n'y a pas de référence directe à mon cours, ce que les étudiants font, mais c'est même pas un défaut, je sanctionne évidemment pas ça. Si des étudiants me donnent de bonnes réponses, ils n'ont pas de raison que ce soit lié à mon ou à notre nos interventions en particulier. Donc c'est la seule particularité, on va dire, de la réponse. Où est-ce que tout ça nous emmène, hein ? Ça commence à nous emmener dans le sujet d'aujourd'hui. C'est que donc, in fine, j'ai fait passer... l'examen. Alors peut-être si je peux préciser aussi une petite chose, c'est qu'il y avait un autre défaut, c'est que normalement les étudiants sont censés sourcer leur réponse, donc ils doivent voilà faire référence, ils sont invités à faire référence à des références bibliographiques, des articles, etc. Et donc là il y en avait aucune qui était fournie. Bon, je précise encore une fois que même ça, 100% des étudiants ne le font pas, mais disons que ça fait partie des choses appréciées et correctement évaluées. Bref, donc j'ai demandé à ChatGPT de produire des références. Donc j'ai demandé d'abord de produire des références. Il m'a produit 2-3 titres d'articles de journaux en anglais que je connaissais pas. J'ai demandé de me produire plutôt des articles scientifiques. Il m'a produit 2-3 titres d'articles scientifiques en anglais, pareil, que j'arrivais pas à positionner, mais qui paraissaient réalistes. Et puis enfin, j'ai demandé des articles en français. Et donc là, il a produit deux articles. Et le premier, notamment, était co-signé de Bernard Stiegler. Donc je précise que Bernard Stiegler est un ancien prof de l'UTC que je connais, qu'on connaît bien ici. Et avec un titre qui était tout à fait à propos. Et puis c'est un philosophe de la technique, effectivement, qui aurait tout à fait pu aborder, enfin, quelque chose en lien avec le sujet il y a quelques années.
Mais pourquoi tu parles au conditionnel, Stéphane ?
Alors pourquoi je parle au conditionnel ? Parce que j'ai vu ses sources et puis j'ai avancé. Et puis il se trouve que j'ai été interviewé par un journaliste de Next Impact pour relater cette expérience, donc ce que je fais là. Et puis quand je discute avec lui à la fin, donc je raconte cette partie-là, il me dit mais vous avez vérifié les sources ? Alors je fais non, j'ai pas encore pris ce temps. Ah, il dit c'est rigolo, vous devriez le faire. Et du coup je l'ai fait un peu en direct. Ce qui était assez rigolo, c'est qu'il y avait aucune des sources qui était réelle. C'était que des sources inventé. Donc comme j'ai demandé de me produire des sources, bien ChatGPT m'en a produit. Elles étaient extrêmement crédibles. Les auteurs, j'ai vérifié, c'était tous des auteurs du domaine. Les titres étaient crédibles, tout allait bien, sauf que ça n'existait pas. Et voilà, typiquement la référence de Bernard Stiegler, elle était co-signée avec une personne qui l'a croisée, avec qui il a travaillé, mais le texte commun, eh bien, il n'existait pas. Alors voilà le deuxième aspect intéressant. Alors on pourrait se demander, hein, peut-être aussi, je me suis demandé moi si mon sujet n'était pas un peu facile cette année. Tu vois, des fois effectivement on se dit ah ok, ça devait être un peu facile. Bon, et puis j'ai corrigé les étudiants, j'ai corrigé les copies, donc il était normal, pas plus facile que d'habitude. Et puis j'ai fait l'effort après avoir corrigé l'ensemble de mes étudiants. En général, je fais évoluer un peu mon barème, souvent en leur faveur, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'attends, je me rends compte que c'est pas bien passé, etc. Et donc, j'ai in fine corrigé la copie de ChatGPT comme si c'était celle d'un étudiant. Très honnêtement, j'ai mis 14 sur 15 parce que, voilà, si ça avait été un humain qui m'avait rendu la copie, j'aurais mis 20 sur 20 aujourd'hui. Voilà, il y a aucun doute. Donc, en conclusion, eh bien, j'ai fait passer mon examen de WE1. Donc, je répète, un cours suivi par des étudiants de l'UTC entre la première et la cinquième année de leurs études. Il y a un autre étudiant qui a eu 20 sur 20. Donc, voilà, félicitations à lui. Mais l'intelligence artificielle, eh bien, a eu la meilleure note égalité.
Ok. Donc ça pose quand même pas mal de questions, j'imagine que tu reviendras un petit peu après sur quelles questions ça pose dans l'enseignement et puis c'est quoi les différentes réactions qu'il y a eu, parce que tu dois pas être le seul à avoir essayé de faire des trucs comme ça.
Non, en effet ça a fait un peu de bruit, ouais. Mais on va peut-être écouter un morceau histoire de récupérer un peu là.
Ouais, c'est... Allez, on va du coup se mettre la première musique de cette émission. Et c'est le titre Fever Dream d'un groupe qui s'appelle Gone en CC by NCSA. Et on l'a déniché comme tous les morceaux de la suite de cette émission sur ziclibreenbib.fr. C'est parti. We'll be right back.
Bonjour, rebonjour, pardon, à toutes et à tous. Donc vous êtes sur Graphite 94.9. C'est l'émission La Voix est libre. Donc je suis avec Quentin.
Salut Steph.
Et donc, moi c'est Stéphane, on est de Picassoft. Le titre aujourd'hui, c'est le titre de notre émission, c'est le chat qui murmurait à l'oreille des humains. Si vous avez raté le début, eh bien je vous rappelle rapidement que j'ai fait passer mon examen de WE1, donc un cours de l'UTC qui consiste à rédiger des choses à propos du web, donc à l'intelligence artificielle ChatGPT, et que ChatGPT a eu 20 sur 20 à mon examen. Il a donc eu la meilleure note égalité avec un seul autre étudiant de l'UV. Alors moi je me demande, Quentin, si on a affaire, je ne vois que deux solutions, soit c'est de la magie noire, soit peut-être c'est des Turcs mécaniques. Les Turcs mécaniques, c'est cette supercherie qui a eu lieu au 19e siècle, consistait à cacher un humain à l'intérieur d'une machine pour faire croire à un automate. Donc là, peut-être que c'est la même chose. En fait, peut-être qu'il y a des tas de gens, lorsque je pose mes questions, qui regardent super vite sur Wikipédia et qui formulent des réponses. En moins d'une ou deux minutes, sur des sujets non préparés. Bref, je suis entre cette alternative. Là, allez, dis-nous un peu, Quentin, c'est quoi ce machin qui est arrivé là ?
Écoute, c'est parti. J'ai envie de dire un peu ni l'un ni l'autre. Et on va essayer de faire un bref résumé, de démystifier un petit peu l'aura de ChatGPT. C'est quand même assez difficile de savoir de quoi il en retourne ces temps-ci. Donc ChatGPT s'est développé comme plein d'autres modèles qui tournent autour de la génération, générer du texte, générer des images, ce genre de choses, par OpenAI, qui est une société américaine dont Elon Musk a participé à fonder. Et donc ChatGPT a été rendu accessible au public, moyennant un numéro de téléphone et tout ça pour confirmer son identité, depuis automne 2022. Et donc c'est pas mal utilisé aujourd'hui, plutôt à des fins de test. On sait que leur modèle économique va peut-être changer, peut-être que ça va devenir payant, donc on n'a pas de certitude. Et donc, tu l'as mentionné, c'est sur le mode du chatbot, de l'agent conversationnel. Donc ça donne un peu cette illusion, on pose une question, on nous répond, et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que ça ressemble à de la magie noire, il faut revenir sur quel est le modèle sous-jacent, on va dire, de ChatGPT. En fait, à la base, ça se base sur quelque chose qui s'appelle GPT-3, qui n'était pas un agent conversationnel. Ça fait partie de ce qu'on appelle les modèles de langage, les language models. C'est, pour faire simple, des systèmes qui sont capables de déterminer la crédibilité d'un texte donné, d'une suite de mots. Est-ce que cette suite de mots fait sens ? Est-ce que grammaticalement elle fait sens ? Est-ce que sémantiquement elle fait sens ? C'est toute cette classe d'intelligence artificielle. Donc, plus généralement, aujourd'hui, c'est des systèmes qui sont capables de prédire une suite qui est crédible à un texte donné. Donc par exemple, avec GPT-3, ce qu'on pouvait faire, c'était donner un début fictif d'article de presse et lui demander de compléter cet article. Donc ça, déjà, c'était très impressionnant. Et donc ChatGPT, c'est une version modifiée de GPT-3, ce modèle capable de prédire une suite crédible à un texte, mais qui a été modifié, on y reviendra, pour donner l'impression d'une conversation. Donc c'est un modèle de langage qui est très massif, et je pense que c'est un des points qui fait que c'est aussi impressionnant, c'est-à-dire que c'est un modèle qui a été entraîné, toutes les intelligences artificielles doivent s'entraîner aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, c'est toute cette classe des réseaux de neurones, on ne va pas rentrer techniquement dans les détails, mais ça marche comme ça, il faut beaucoup de données d'entraînement pour que le modèle de langage, en gros, sache qu'est-ce qui est crédible et qu'est-ce qui n'est pas crédible, comme un enfant à qui finalement on apprend les règles de grammaire. Donc, c'est des centaines de milliards de textes, donc un très très gros corpus, à la fois avec des textes, on va dire, vérifiés, traditionnels, donc des sources académiques, quasiment tous les livres qui ont été écrits, mais aussi une bonne part de données qui ont été aspirées sur le web, par exemple le forum Reddit et plein d'autres forums où c'est plutôt des données utilisateurs, donc non contrôlées, qui ont alimenté GPT-3 et donc a fortiori ChatGPT pour s'entraîner. Donc évidemment, une bonne partie de ces données ne sont pas publiques, on ne sait pas exactement quel est le corpus d'entraînement, mais on sait qu'il est extrêmement massif. Et aujourd'hui, les modèles comme GPT-3, c'est pas du tout le seul. Google travaille sur ces gros modèles de langage aussi, des universitaires travaillent dessus. Et c'est un petit peu la course à qui aura le plus gros modèle. Parce que plus les données d'entrée sont massives, plus le modèle sera capable d'affiner sa capacité de prédire une suite crédible à un texte.
Ouais, et c'est on aura l'occasion d'y revenir, Quentin, mais c'est peut-être la question du saut quantitatif, saut qualitatif, changement de degré, changement de nature, c'est un peu ce qui est en train de se manifester là. C'est-à-dire que peut-être qu'on a atteint le moment où effectivement on a été capable de traiter un tel ensemble de données qu'on arrive à ce qu'on appelle communément l'intelligence artificielle.
C'est effectivement une question qui se pose. Un des arguments qui est souvent employé par rapport à ChatGPT, c'est de dire finalement ChatGPT ne fait qu'imiter ce qui a déjà été fait, donc c'est pas tout à fait, enfin c'est pas extraordinaire, c'est pas une singularité, c'est pas une IA consciente. Mais néanmoins, ça produit des effets qui sont de nature peut-être différente sur la société, et on y reviendra, rien que l'enseignement était un bon exemple, quoi. Mais du coup, le fait que à son cœur, et je vais le répéter beaucoup de fois, mais c'est pour qu'on l'ait bien en tête, ChatGPT n'a pour objectif que de produire une suite crédible à un texte donné, ça implique plusieurs choses. La première chose, et peut-être la plus importante, c'est que le but assumé de ChatGPT n'est pas de produire des assertions vraies, n'est pas de produire des vérités. C'est pas un moteur de recherche. Ça fonctionne pas pareil. Un moteur de recherche, on lui demande une recette d'un gâteau à la pomme, il va pas essayer de nous inventer une recette. Il va essayer de chercher dans son corpus et de nous dire comment faire un gâteau à la pomme.
Oui, alors que là, effectivement, on a bien vu, hein, quand je lui ai demandé des références bibliographiques, effectivement, il m'a inventé des références bibliographiques. C'est d'ailleurs d'autant plus drôle, parce que finalement, trouver des bonnes références bibliographiques sur le web pour un algorithme, c'était hyper facile. Donc ça corrobore bien ce que tu dis, il est pas programmé comme ça.
Exactement. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de garder en tête que l'objectif, ce que cherche à maximiser ChatGPT, ou en tout cas GPT-3, son modèle sous-jacent, c'est la sensation de vérité. Quelque chose qui sonne comme ce qu'on aurait pu lire ou entendre à la radio, dans un livre, quelque chose d'un peu sérieux, quoi. Et donc le but de GPT-3, c'est pas de répondre non plus à une question, mais donc d'inventer une suite. Et en fait, c'est un peu le principe de ce qu'on fait quand on essaie de bullshiter, par exemple, dans un rapport. Moi, quand j'étais étudiant, sincèrement, ça m'est arrivé d'avoir un peu la flemme de faire des recherches sérieuses et de pondre un paragraphe avec des jolies formulations, 2-3 mots techniques jargonesques récupérés ici et là, et dire peut-être que ça va passer. Franchement, moi, c'est passé. Pour ChatGPT, ça peut très largement passer aussi.
Ouais, alors ce qu'il faut voir, c'est quand tu dis c'est passé, hein, on est un peu au courant de ça, on en voit passer. Là, du coup, ce qui est impressionnant, c'est effectivement le niveau de qualité que ça atteint, qui fait que, tu vois, quand on lit ce qu'on a vu tout à l'heure, alors j'entends ce que tu dis, hein, c'est-à-dire que le mode de fonctionnement, c'est celui de cette création en mode bullshit, mais le résultat, il est extrêmement qualitatif, et c'est pas du tout du bullshit au sens où un agencement qui aurait pas de sens dans l'absolu, quoi. Ça fait sens. Pour de vrai, à la fin, c'est là où c'est quand même
complètement
et perturbant.
Une des raisons de ça, c'est effectivement que comme ça s'est entraîné sur quand même énormément de données qui, par ailleurs, sont aussi vraies, les connaissances un peu formelles de centralisation, décentralisation, ça peut remobiliser ces trucs-là, puisqu'il aurait été crédible de lire ce genre de choses sur Internet. On y reviendra peut-être un petit peu après sur la différence entre ChatGPT et GPT-3. Donc, effectivement, le modèle en dessous de ChatGPT, GPT-3, pourra compléter des phrases avec des informations vraies. Ça arrive même assez souvent, notamment si ça concerne, par exemple, un fait historique où tout le monde est assez d'accord là-dessus. Sur Internet, il y a eu plein d'infos qui vont dans ce sens, les pages Wikipédia, les encyclopédies vont dans ce sens. Donc là, GPT-3 se montrera assez fiable, mais fiable au sens de c'est crédible, pas au sens de c'est vrai, finalement. Mais GPT-3 peut aussi, et on peut y accéder encore sur Internet, compléter un texte qui expose des arguments climato-sceptiques ou voire même négationnistes, ou peut décrire des méthodes de torture, peut décrire tout un tas de choses qu'on considère assez immorales. Et en fait, il faut bien comprendre que ChatGPT n'a aucune raison de ne pas faire ce genre de choses, puisque son objectif n'est pas de produire des phrases morales ou vraies.
GPT-3, t'as redit ChatGPT, donc
GPT-3.
GPT-3,
ouais,
justement, tu vas nous redonner la différence.
Effectivement. Un exemple que je trouve amusant avec, pour le coup, ChatGPT, qui illustre un petit peu ce truc-là, c'est que ChatGPT, on se moque souvent de ce système sur Internet parce qu'il y a des problèmes de maths avec lesquels les humains ont un peu de mal, qu'il n'arrive pas à résoudre, quoi. Il se plante toujours, donc on se dit « Ah, vous voyez, il n'est pas très malin ». Et en fait, au contraire, il remplit très très bien son rôle parce qu'il serait tout à fait crédible de trouver sur Internet un humain classique qui se plante parce que les humains se plantent sur ce problème. Il suffit qu'on demande à ChatGPT, tiens, résous ce problème de maths comme un prof de maths l'aurait fait, et là immédiatement, le truc est bien résolu. Donc on voit bien ce que, par cet exemple, ce que ça cherche à maximiser. J'ai pas précisé, mais pour cette partie, je me suis pas mal inspiré d'une vidéo de Monsieur Phi, un vulgarisateur sur Internet qui parle de ChatGPT. Donc, pour faire le lien enfin entre ChatGPT et GPT-3, et bah ChatGPT c'est tout simplement une version un peu modifiée de GPT-3, le modèle qui lui pouvait dire des trucs un petit peu horribles, mais avec plusieurs modifications. La première modification, c'est que c'est une version conversationnelle. Donc plutôt que de juste prédire la suite d'un texte, ça a été programmé pour donner cette impression de question-réponse. En plus, il y a tout un mécanisme de mémoire de conversation qui a été ajouté. Donc on peut avoir l'impression que ChatGPT se souvient de ce qu'on a dit et apprend de nous.
Oui, c'est peut-être pour ça notamment qu'il... Enfin, moi, je me suis dit que c'était peut-être pour ça qu'il m'a cité Bernard Stiegler, alors qu'il savait que mon examen était de l'UTC. Peut-être qu'il a fait ce travail de contextualisation qui est assez pertinent, quoi. Toujours pertinent dans une conversation à nouveau.
Carrément. Et donc, je pense que ça participe un petit peu du côté anthropomorphisant, avoir l'impression de parler à une IA un peu sentiente, intelligente, même si il faut donner au crédit de la société qui a édité ChatGPT d'avoir mis un peu des garde-fous pour que justement l'IA se mette pas à dire oui j'ai des émotions, j'ai peur qu'on m'éteigne ou je sais pas quoi, enfin il y a un rappel assez souvent que c'est juste une IA. Et pour moi un des trucs aussi donc très important, différence entre GPT-3 et ChatGPT, c'est que en gros GPT-3 a été massivement censuré par des humains avant sa mise en ligne publique, justement pour éviter de tenir des propos horribles, négationnistes, etc. Donc en fait pourquoi ? Bah tout simplement parce que, et je terminerai là-dessus, les données d'entraînement de GPT-3 à la base, elles sont pas sécurisées, c'est-à-dire que personne n'a pu vérifier qu'elles ne contenaient pas des trucs horribles. Je rappelle, on parle de centaines de milliards de textes, c'est vraiment gargantuesque. Donc, il y a tous les biais racistes et sexistes qu'on peut trouver, notamment hein, si on se trimballe n'importe où sur Twitter. Enfin, voilà, je pense qu'on voit à peu près de quoi on parle. Et donc, comme souvent dans ces situations, il faut des humains qui sont capables de dire « Ok, non, ça, c'est pas moral, ça, on n'en veut pas. On veut pas que des millions de personnes aient accès à des propos comme ça. » Donc, OpenAI a payé une entreprise au Kenya qui est spécialisée dans l'IA éthique, avec des guillemets, pour dire pendant plusieurs mois, en gros, qu'est-ce qui est OK et qu'est-ce qui n'est pas OK dans ce que produit ChatGPT. C'est un genre d'apprentissage par renforcement pour dire on va donner plus de poids aux trucs qui, par exemple, énoncent des vérités scientifiques comme l'existence du réchauffement climatique ou ce genre de choses. Donc en fait, il faut savoir que ça, c'est un mécanisme qui est relativement classique. Hein. Toutes les IA qui sont déployées massivement, on pense aux Alexa, Google Home, Siri et compagnie, il y a toujours des travailleurs, travailleuses du clic derrière qui vont faire les petites mains pour dire ce qui est OK et ce qui n'est pas OK. Mais moi, je pense que ça pose une question intéressante, c'est que au final, la sécurité de l'IA, elle est confiée à des humains dont on ne sait pas grand-chose, on ne connaît pas leur formation en éthique, dont on ne sait pas non plus leur but. Et il me semble que si jamais tout le monde se met à faire confiance un petit peu à ChatGPT et qu'on a oublié de mettre une rustine à un endroit qui n'allait pas, bah ça pourrait poser pas mal de questions. Voilà en gros ce que j'avais à dire sur ChatGPT.
Ouais, on va. Enfin, là où on va continuer dans la deuxième partie, mais là où pour moi c'est très, très, très important, ce que tu viens de soulever, c'est que en gros, si on a une IA qui sort à peu près n'importe quoi, tous les types de discours, etc., on a effectivement du mal, on va dire, une personne normalement constituée va avoir du mal à lui faire confiance et ou à rentrer en empathie ou je sais pas quoi. Mais en revanche, si ça marche presque tout le temps, effectivement, il y a des relations de confiance qui vont se poser. Et là, du coup, la question du type d'éthique, du type de morale, des questions de la façon dont elles ont été posées derrière, elle devient fondamentale. Parce qu'effectivement, ça va orienter ce qui est traité, ce qui n'est pas traité, etc. etc. quoi. Donc, en vrai, là, on est en train de parler quasiment de confiance et de relations humaines, quelque part.
Oui, complètement, mais parce que je pense vraiment que le mécanisme conversationnel, même si OpenAI prend des précautions, en fait, ça active nos circuits cognitifs qui sont juste faits pour avoir de la confiance dans des relations qu'on construit avec d'autres humains. Et un des points, en tout cas, qui est un peu subtile, je trouve, un peu difficile plutôt, avec ChatGPT, c'est que avec cet apprentissage par renforcement, vu qu'il dit quand même beaucoup plus la vérité que ne pouvait le faire GPT-3, et bah en fait, il suffit de se dire ok, bon moi je vais pas me laisser avoir, je rentre 2-3 trucs où je connais la réponse, je vérifie qu'il me raconte pas de la merde, effectivement il me raconte pas de la merde, et là là, tu commences à faire confiance, alors qu'en fait, pour beaucoup de trucs, il faut déjà connaître la réponse, il faut déjà être expert pour pouvoir évaluer la réponse de ChatGPT. Donc, pose question de son utilisation concrète, quoi.
Moi, j'ai besoin d'une pause musicale pour me remettre de ça.
Et ben, on va partir donc sur la deuxième musique de cette émission. C'est Black Hole de Aiden Harp. C'est en Creative Commons by NCSA. Et c'est parti.
Sur Graphite, émission La Voix est libre. Donc aujourd'hui, le sujet, le chat qui murmurait à l'oreille des humains. Et donc, je suis avec Quentin en studio.
Stéphane.
Et donc, on a parlé aujourd'hui de ChatGPT. Donc, on va terminer une première émission sur ce sujet. On va faire un petit bilan rapide et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite. Donc, je rappelle que le début de l'histoire, hein, c'est que j'ai fait passer L'examen de WE1, donc un cours de l'UTC qui porte sur le web, dont l'enjeu est d'écrire des chroniques, des petits articles à propos du web. Donc on a un examen qui reprend cet exercice rédactionnel, donc qui est réalisé chaque semestre par les étudiantes et les étudiants. Et cette année, je l'ai fait passer à ChatGPT. Donc je vous refais pas toute l'histoire, mais en gros, il a eu 20 sur 20. Et donc c'était évidemment extrêmement surprenant et interrogeant de se retrouver avec un programme, une intelligence artificielle, donc capable de rédiger des choses aussi crédibles que ce que l'on peut demander à des élèves ingénieurs. Alors Quentin, dans la seconde partie, eh bien, nous a expliqué que ChatGPT était une version conversationnelle d'un programme qui s'appelle GPT-3, dont la fonction principale est l'imitation et le fait de produire des textes crédibles qui vont donner une impression de véracité. Donc je crois que tu utilises un peu ce mot-là, on pourrait l'appeler le roi des bullshitters, Quentin, c'est-à-dire un programme capable effectivement de produire bien des énoncés qui semblent ok. Et donc, ce qui a très très bien marché dans notre cas. Alors, comment ça marche? Pareil, tu nous as expliqué rapidement, hein, mais en gros, beaucoup de données en entrée, des centaines de milliards de textes qui ont été traités, des livres, Wikipédia, des médias sociaux. Et puis ensuite, tu l'as précisé, c'était important, une partie de supervision, une partie de renforcement, pardon, où les contenus ont été retraités par des humains qui les ont classés, en gros, hein, je vous le caricature un peu, mais entre ce qu'on avait le droit de dire et ce qu'on n'avait pas le droit de dire, quoi, dans le cadre de ChatGPT. Donc, par exemple, effectivement, tu prenais l'exemple de donner des techniques de torture, on n'a pas le droit, tenir des propos négationnistes, on n'a pas le droit. En revanche, voilà, répondre à des sujets de WE1, et bien visiblement, on a le droit. Voilà. Et donc, à partir de cet entraînement, et bien, on a aujourd'hui quelque chose qui fonctionne très bien, qui dit en général des choses vraies, et en tout cas, très très crédible. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, on termine peut-être là pour aujourd'hui.
Ouais. Bah, on peut peut-être faire un petit teasing pour ce dont on parlera la semaine prochaine. On va discuter un petit peu des conséquences que ça aura dans le domaine de l'enseignement, puisque c'est un peu le fil rouge de cette émission. Est-ce qu'il y a eu d'autres gens qui ont eu les mêmes expériences? Quelles sont les différentes solutions proposées? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'elles sont souhaitables? Et puis, on fera un petit point aussi général sur ce qu'a produit l'automatisation. Je dis au fil des siècles, ça fait un peu prétentieux, mais en gros, ce que ça a eu tendance à produire, et on se posera la question de est-ce qu'on a intérêt à utiliser ChatGPT, même si tous les problèmes dont on a parlé étaient un petit peu réglés. Voilà pour le programme. Bon, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente matinée à toutes et à tous. Pour rappel, vous pouvez retrouver le podcast sur radio.picassoft.net. Bonne journée, à la prochaine, ciao.
Au revoir.